Quel plaisir! Ah, moi j'aime bien. Alors, j'ai plein de gens qui me disent qu'ils aiment bien ce petit rendez-vous avec vous, Annick Valérie. Bonjour.
Bonjour, bonjour Philippe.
Les.
Alors moi aussi, imaginez-vous que maintenant il m'arrive d'être interpellé par des gens qui ne m'ont jamais vu, mais qui reconnaissent ma voix.
Ah, une
Ah,
voix, c'est une
ça fait
signature, ça. Mais
plaisir,
oui, c'est une
oui.
signature, une voix. Annick Valérie, nous sommes là pour les causeries vertes chaque semaine sur Radio Présence. On part au jardin avec vous et vous allez nous dire qu'il faut préparer. Les parfums pour le printemps. Parfums.
Oui, les parfums. Alors ça va être le moment de planter maintenant. Vous savez que il y a le fameux proverbe à la Sainte Catherine, tout bois prend racine. Alors ce qui d'ailleurs nous induit en erreur, parce que si ça prend racine, c'est que ça n'en avait pas. Donc il s'agit de bouture. Mais bon, bref, c'est quand même le moment d'aller écumer les jardineries et de faire acquisition de petits arbres et arbustes qui vont nous permettre de parfumer le printemps.
Parfumer le printemps.
Eh oui.
Alors, on vous écoute.
Alors bon, j'ai
Oui.
un amour particulier pour le seringa. Le seringa qu'on appelle aussi de nom barbare Philadelphus.
Oui, voilà, je
Tiens,
connaissais
voilà, c'est
plus
ça. Mais
l'appellation.
je n'en doute pas, Philippe.
J'apprends
Voilà.
plein de trucs à
Voilà.
vous. Il y a des trucs, je ne sais même pas que ça existe. C'est
Voilà.
énorme.
Mais c'est bien. Voilà. Alors le Philadelphus, c'était un arbre, moi, un arbuste qui était présent dans le jardin de ma grand-mère. Et bon, c'est un âge où on est petit, on met la tête dans les fleurs, on met presque les fleurs dans les narines. Hein, voilà.
C'est le parfum, donc c'est en fait
Voilà.
d'avoir un jardin qui, lorsqu'on se déplace dans le jardin, on a des fleurs qui sentent fort, quoi, qui
Voilà, et
sentent.
c'était une époque où justement on y prêtait beaucoup d'attention. Et moi, j'étais petite dans les années 60. Le parfum, c'était quelque chose d'important. C'est devenu quelque chose de secondaire et je trouve que c'est bien dommage parce qu'on se prive de quelque chose de charmant. Et puis, bon, après, en général, les fleurs parfumées sont très visitées par les papillons et les insectes. Et à un moment où on déplore leur disparition. C'est bien aussi de les accueillir de cette façon charmante.
Alors, ça dépend de quels insectes, hein, parce que
Oui, bon.
certains, ils sont là, ils sont bien là. Hein. Oui.
Bzz.
Si les abeilles sont moins nombreuses, les moustiques, eux, ils sont bien nombreux.
Eh oui.
Et d'ailleurs, si un jour vous avez des conseils pour les mouches et les moustiques,
Oui,
si.
alors je vous prépare ça pour un
Voilà,
prochain
pour la,
numéro.
je vous donne des devoirs.
Alors revenons à notre seringa. C'est un arbuste qui ne prend pas trop de place en largeur. Il va pousser sur des branches assez droites et il va se couvrir de petites feuilles vert moyen, un peu mates, et surtout de corolles de fleurs blanches assez grosses, avec quatre pétales si je me souviens bien, et une odeur suave vraiment extraordinaire. Alors si vous pouvez partez sur les vieilles variétés parce que justement les variétés anciennes étaient sélectionnées beaucoup par rapport à leur parfum. Sinon, attendez le printemps pour les acheter en fleurs. Moi, je sais que j'avais été déçue par un seringa que j'avais trouvé très très beau avec les pétioles des fleurs qui étaient rouges. C'était spectaculaire et en fait,
Il n'y a pas
il
d'odeur.
n'y avait pas d'odeur. Voilà.
Mais comme les roses, hein, il y a beaucoup de roses aujourd'hui qui n'ont pas d'odeur. Hein.
Exactement. Bon, après, ça dépend de leur famille aussi,
Mais
mais
oui.
on en parlera une autre fois.
Voilà.
Voilà. Après, donc, c'est le Philadelphus, le seringa, c'est un arbuste qui est aussi intéressant parce qu'il supporte très bien la chaleur. Moi, je peux en parler puisque je suis pas née ici, je suis née au pays des cigales. Et là-bas, il faisait vraiment très chaud. Le seringa tenait la route sans problème. Un autre arbre aussi, un autre arbuste qui était très intéressant, c'était le lilas. Alors le lilas qui est un petit peu, ça fait un peu jardin de grand-mère, mais c'est un arbuste à ne pas négliger. Alors certes, il a une floraison qui est finalement assez brève, mais c'est tellement merveilleux que ça vaut la peine
C'est
de...
joli, oui.
Voilà. Donc,
Les abeilles adorent, hein.
voilà. Il y avait une famille du côté de Nancy, si je ne me trompe pas, la famille Lemoine, qui était versée dans les hybridations et qui avait sélectionné beaucoup de ces variétés, de nouvelles variétés. Donc, en partant d'un lilas qui était couleur lilas, forcément.
Et quelle est la couleur du
Alors,
lilas?
c'est un mauve rosé, je dirais. Voilà. Des petites fleurs qui sont sur ce qu'on appelle un tierce ou une tierce, un genre de grappe en fait. Et par sélection, on avait obtenu des fleurs beaucoup plus importantes avec des couleurs qui allaient du blanc au mauve pâle et puis qui partaient sur un pourpre foncé très très intense. Et avec des fleurs qui pouvaient être ou simples ou doubles. Et voilà, donc si vous trouvez l'appellation le moine, c'est que c'est des sélections qui datent du 19e siècle et vous pouvez y aller, elles seront vraiment odorantes. Parce que par exemple, il y avait Madame le moine, enfin, il avait donné les noms de toute sa famille. Voilà. Et puis bon, quand on donne les noms, le nom de sa femme à une variété, il vaut mieux qu'elle soit jolie quand même.
Et oui, et qu'elle sente bon aussi.
Et qu'elle sente bon. Alors, n'hésitez pas à taper dans les lilas. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un arbre qui se taille en faisant des bouquets. Si vous faites un bouquet, en fait, vous allez descendre sur des bourgeons qui, l'année prochaine, donneront des branches neuves et qui, voilà, qui permettront à l'arbre de prospérer.
Alors, ça se développe pas mal, quand même, les lilas.
Oui, c'est bien. Surtout en largeur. Enfin, c'est pas que c'est en largeur. Il y a quand même beaucoup de branches droites. Hein. C'est pas quelque chose qui va non plus s'étaler énormément. Hein. Donc, le lilas, valeur sûre. Après, dans les choses que l'on plante aussi, mais de plus en plus, alors ça, c'est, vous aurez plutôt une floraison en automne. Hein. C'est ce qu'on appelle le chalef. Alors, le chalef, c'est un Elianus, si je ne me trompe pas, qui en fait, c'est une plante qui est très intéressante pour faire les haies. Malheureusement, elle atteint souvent des proportions qui sont très, très importantes. Hein. Mais on ne pense pas à les utiliser en arbre isolé, et pourtant, c'est dommage. Donc là, vous avez un arbre qui est formidable parce qu'il peut pousser dans n'importe quel sol, y compris dans des sols sableux. C'est pour ça qu'il est utilisé aussi en bord de mer pour faire des haies. Et en automne, vous sentez tout à coup une odeur délicieuse qui envahit le jardin. Ça tient un peu de la fleur d'oranger, de la frangipane. Enfin, on se croirait dans
la frangipane.
Ben voilà, je vois votre œil qui pétille. Et les fleurs sont très, très discrètes, mais sentent vraiment extrêmement bon. Et puis, elles leur succèdent des genres de petites olives qui sont comestibles. Il y a peu de gens qui le savent. Voilà, et qui garnissent l'arbre. Un arbre qui est assez touffu pour contenir des nids. Moi, je connais plusieurs amis qui en ont dans leur jardin. Et souvent, ce sont des refuges parce que la végétation est assez dense. Et voilà. Alors, le souci, c'est que vraiment, ça grimpe. Donc, si on fait une haie avec ça, il faut prévoir l'échelle double, la cisaille, les chenilloirs. Et alors, si on veut pallier cet inconvénient, on peut choisir des variétés qui sont panachées de blanc ou panachées de jaune. Parce que quand on choisit une variété panachée, en fait, vous avez une fonction chlorophyllienne qui est partielle. Et donc, la plante devient moins grande, en fait.
La glycine ?
Ah oui, la glycine. Ah. C'est merveilleux, la glycine.
La glycine aussi, ça a une odeur et puis
La glycine, c'est la même racine que glucose ou glycémie. Ça fait référence au sucre, en fait. Et ce que l'on sait peu, c'est que l'on peut consommer les fleurs de glycine. Comme on consomme les fleurs d'acacia, les fleurs de glycine sont comestibles. Alors, dans les deux cas, on vous recommande quand même de ne pas mettre les tiges ou les grappes qui portent les fleurs, mais de vraiment détacher la fleur de la grappe. Et ça a les mêmes usages. Et on peut faire des beignets avec. On peut s'amuser aussi à faire des boissons. Donc, les glycines, vous avez la glycine de Chine et la glycine du Japon. Alors, comment les distingue-t-on ?
C'est ça.
Voilà. Alors, si je ne me trompe pas, mais c'est à vérifier, c'est un ou l'autre. Il y en a une qui tourne à droite et l'autre qui tourne à gauche.
Ah.
Alors, apparemment, si on pense à la politique, ce serait la chinoise qui tournerait à gauche.
Oui.
Paraît-il, voilà. Et la japonaise qui tournerait à droite. Bon, c'est à vérifier, mais dans tous les cas, voilà, c'est inversé. Les grappes de glycine japonaise sont beaucoup plus lâches et sont très très longues. Elles peuvent atteindre, 40 cm, c'est dans certains cas, elles peuvent être... Mais par contre, les fleurs sont très espacées.
Ça pousse partout ?
Oui, franchement, ça a pas beaucoup de y a pas beaucoup de restrictions. Moi, j'en ai vu pousser dans le midi. Voilà. Le souci, c'est de bien les tailler. Si vous avez une glycine chez vous, c'est un peu comme la vigne. Toutes les grandes branches volubiles qui sont parties cet été, vous allez les raccourcir à trois bourgeons. Et ces trois bourgeons, en fait, vont se transformer et vont donner des grappes. Donc, vous gardez une structure qui n'est pas trop échevelée. Mais bon, faites attention aussi où vous plantez vos glycines. Une glycine, c'est capable de digérer une grille. Hein.
Oui.
Une belle grille avec des gros barreaux. Hein, voilà.
Ouais, c'est fou.
C'est vraiment très, très solide. Alors, chez ma maman, on en avait planté une que l'on avait dirigée en arbre. On peut diriger une glycine en arbre isolé. C'est absolument somptueux. Donc, ça demande les premières années de mettre un support de façon à ce qu'un tronc se forme. Donc, on empêche la glycine de s'enrouler. On fait monter le tronc à peu près à 1,80 m, 2 mètres. Et au bout de 3 ans, vous avez un tronc qui va commencer à devenir vraiment, vraiment épais. Vous enlevez toujours les petites branches latérales de façon à ce que ce tronc prenne de la vigueur. Et ensuite, vous laissez partir des branches qui vont faire un petit parasol au-dessus. Et alors, ça demande un peu de temps, mais franchement, le résultat est absolument magnifique.
Ça sent bon aussi, la glycine.
Ça sent très, très bon, oui. Ouais.
Et puis, on voit des tableaux ou des photos de balcons avec des glycines qui recouvrent les façades. C'est magnifique.
Oui, c'est somptueux. C'est très, très beau. Et oui, ça fait partie des joies du printemps. Voilà. Après, vous avez d'autres arbres qui sont un peu plus confidentiels, mais qui ont des parfums renversants, comme l'osmante. Qui est un petit arbuste persistant, le pittosporum aussi, une petite fleur blanche aussi, avec un parfum capiteux extraordinaire. Vous avez un tout petit machin dans un coin, là, et puis hop, vous avez un parfum somptueux. Puis donc, ne négligez pas non plus les grands classiques et les arbustes méditerranéens, le romarin, qui va commencer à fleurir dès le mois de février s'il est bien exposé.
D'accord.
Alors, quand on n'a pas trop de place, ce qui est sympathique, c'est de le faire retomber sur un mur. Il existe un romarin, alors je vais vous sortir le nom latin, ça va faire très chic. Rosmarinus prostratus, il est prostré, le pauvre, donc il rampe. Voilà. Et celui-là est intéressant parce que vous l'avez à portée de l'œil et vous pouvez profiter des fleurs, les fleurs qui se mangent d'ailleurs.
Ça, vous avez eu une bonne réponse. Hein.
Voilà, c'est ça.
Du coup, ça a sonné.
Voilà. Donc, des arbustes voilà, que vous pouvez inviter au jardin. Après, il y a toutes sortes de lianes fleuries aussi, comme les jasmins. Alors, le vrai jasmin, par pitié, arrêtez d'appeler jasmin ce truc qui vient d'Amérique, là. Alors, je vais être vilaine, là. On appelle maintenant dans les jardineries jasmin de Virginie, quelque chose qui n'a rien à voir avec le jasmin. Et qui a un feuillage un peu bêta, hein, qui est un peu renflé, pas très intéressant. Et les fleurs ne sont pas vraiment odorantes. Hein, par rapport à un jasmin, alors, le vrai jasmin.
J'ai un vrai jasmin. Ouais, non,
voilà. Alors parlons du vrai jasmin.
J'ai un vrai jasmin parce que là, il y a de l'odeur. Ça,
ah, voilà,
c'est super bon.
Ça. Alors, le vrai jasmin, qu'on appelle aussi jasmin d'Arabie, c'est une plante, forcément, comme elle vient de pays chauds, qui est beaucoup plus fragile au froid, hein, qu'on peut, les premières années, recouvrir d'un voile d'hivernage. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais les voiles d'hivernage, ça reproduit exactement ce que font les cocons de chenille. Hein. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui laisse passer l'air, un peu la lumière, mais qui, en même temps, permet d'être dans une atmosphère...
un peu moins froide.
Douillette. Voilà. Et donc, le vrai jasmin d'Arabie, vous allez pouvoir ramasser les fleurs et vous en servir pour mettre dans le thé.
Ah bon ?
Eh oui. Donc, ce jasmin-là, il a des petites feuilles divisées.
La prochaine fois, je mettrai du jasmin dans le thé.
Oui, oui. Mais alors, attention, le vrai, parce que sinon, tu risques l'empoisonnement.
Moi, j'ai le vrai. Celui qui sent fort.
Forcément, voilà.
Donc, on le reconnaît à ça, quoi, alors, quelque part. Le vrai et le faux.
Alors, le faux, il a vraiment une feuille qui est très, très épaisse. Et il fait des branches aussi très, très épaisses.
Je vous appellerai. Voilà. Je vous appelle. Voilà. Parce que là, je ne serai pas capable.
Il faudra me porter ça pour un
examen
approfondi.
Je vous appellerai voir si j'ai un vrai ou un faux jasmin pour pouvoir mettre les feuilles, les fleurs dans le thé de Nathalie.
Et dans les arbustes aussi, qu'on a un peu oublié parce qu'ils mettent quand même assez longtemps à pousser, vous avez certaines variétés de pivoine aussi qui sont magnifiques. Hein. Alors moi, j'ai une tendresse particulière pour une pivoine qui s'appelle « Souvenir de Maxime Cornu ». Ça n'est pas très romantique, mais elle est très, très belle. Elle est jaune soufre, infusée de rose. On dirait qu'on a trempé l'extrémité des pétales dans la grenadine. Et il y a une odeur vraiment suave qui se dégage de cette fleur. Ça vaut vraiment la peine. Mais il faut de la patience. Une pivoine arbustive met quand même quelques années à être belle. Ce qui explique aussi leur prix à l'achat quand on a des sujets qui sont un peu élevés.
Et donc, on en parle maintenant parce qu'il faut s'en occuper d'ores et déjà.
Voilà, il faut déjà aller écumer un petit peu les jardineries et aller regarder ce que l'on vous propose comme arbuste. Parce que c'est le moment de choisir, vous pouvez avoir de bonnes surprises, de jolis sujets avec beaucoup de branches. Souvent, on se fait fasciner par la végétation, mais quand un arbre a perdu ses feuilles, on peut vraiment se rendre compte de la santé de la plante, si elle a beaucoup de branches, si elles sont en bonne santé, ça peut être intéressant. Et puis quelquefois aussi, c'est l'occasion de profiter de promotions. Hein. C'est toujours plus facile de vendre un lilas en fleurs qu'un lilas défleuri. Donc voilà, ça peut être l'occasion aussi de faire de bonnes affaires.
Voilà, pour préparer le parfum, c'est printemps ou cet été même.
Oui.
Donc c'est le moment de s'en occuper. Puis il y a peut-être sûrement des bonnes affaires à faire. Merci beaucoup, Annick Valérie.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.